Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes en ce moment, nous poursuivons le séminaire associé au cours de cette année sur les politiques migratoires. Et dans ce séminaire, nous avons l'habitude d'inviter des chercheuses, des chercheurs, souvent, pas toujours, mais c'est le cas aujourd'hui, affiliés à l'Institut Convergence Migration, que je dirige par ailleurs et dont le Collège de France est partenaire. Alors j'ai le très grand plaisir d'accueillir aujourd'hui les deux Hélène. Hélène Thiollet, d'une part, et Hélène Lebail, de l'autre. Elles sont toutes les deux chargées de recherche au CNRS. Elles travaillent toutes les deux au Centre d'études de relations internationales de Sciences Po. Je ne suis jamais très sûr de la signification du sigle. RI, c'est bien les relations internationales, c'est ça. Mais ce qui les différencie, c'est qu'elles n'ont pas les mêmes terrains. Hélène Thiollet a beaucoup travaillé dans le monde arabe, dans la péninsule arabique, également dans la corne de l'Afrique. Et Hélène Lebail est une spécialiste des migrations chinoises au Japon, mais également dans le monde occidental. Elle a vécu et travaillé au Japon, de même qu'Hélène a vécu dans les pays du Golfe. Ce sont deux chercheuses qui sont typiques de leur génération, c'est-à-dire des chercheuses intrépides, des chercheuses de terrain, des chercheuses qui pratiquent une science politique, mais de terrain, et qui, pour autant, sont tout à fait à l'aise aussi dans les discussions théoriques. Donc, il y a l'héritage de Sciences Po, l'aisance théorique, mais aussi cette pratique du terrain qui change radicalement les regards. Et donc, je suis absolument ravi de pouvoir les accueillir successivement. Elles vont nous parler de l'évolution récente des politiques migratoires, avec une certaine profondeur historique, comme toujours. D'abord dans le Golfe, donc je vais donner la parole tout de suite à Hélène Thiollet, et ce sera ensuite le tour d'Hélène Lebail.
Cher François, merci pour cette invitation et pour cette introduction. Et merci à Laura d'organiser aussi cette série de cours. Je vais donc commencer cette séance de cours sur les politiques migratoires hors des contextes occidentaux. Je vous propose de vous intéresser aujourd'hui aux politiques migratoires dans la péninsule arabique ou dans les pays du Golfe, à travers, comme l'a dit François, une perspective historique ou plutôt une perspective géo-historique des migrations et des politiques migratoires dans la péninsule arabique, que je ferai suivre d'un ensemble de réflexions plus contemporaines sur la question du contrôle des migrations depuis 1991 dans cette région, dans les monarchies du Golfe, et du rapport entre l'État, le marché et la société, c'est-à-dire, en d'autres termes, de l'économie politique de la migration dans les péninsules arabiques et de l'émergence d'une gouvernance illibérale des migrations dans cette région. Pourquoi s'intéresser aux migrations dans la péninsule arabique ? J'ai tendance à commencer mes exposés toujours par le même constat, parce que c'est une grosse question. Une grosse question en termes quantitatifs. Vous voyez ici une représentation anamorphique de la migration nette dans cette région. Et donc vous voyez le poids ou la taille de cette péninsule arabique cerclée de rouge ici par rapport à d'autres espaces continentaux ou sous-continentaux. Donc il y a énormément d'immigration dans cette péninsule arabique. On retrouve aussi, en termes de stock et non plus de flux, une très forte population immigrée, toujours dans cette péninsule arabique, toujours la représentation anamorphique en fonction du nombre de migrants internationaux dans la sous-région, qui ici montre l'importance de ces stocks. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la part de ces migrants internationaux est en augmentation dans la péninsule arabique. Et pour preuve, j'en veux ces statistiques extraites de la division des populations de l'ONU en 2019. On voit que la plupart des stocks de migrants, enfin plutôt de la part des migrants dans les populations locales, dans différentes régions, baissent entre 2010 et 2019. Elles baissent en Europe, elles baissent en Amérique du Nord, pardon, elles baissent en Asie centrale et en Asie du Sud, elles baissent en Asie du Sud-Est très légèrement. En revanche, elles augmentent fortement dans deux régions. Elles augmentent en particulier en Afrique du Nord et dans ce que l'ONU appelle l'Asie occidentale, c'est-à-dire l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, hein, et elles augmentent plus légèrement en Afrique subsaharienne. Donc on voit effectivement que la croissance des stocks de migrants internationaux en part de la population est vraiment tirée par cette région. On retrouve une preuve, encore une fois quantitative, sur la base des mêmes données dans la représentation maintenant célèbre, hein, d'Abel et Sanders, qui a été beaucoup reprise pour représenter les statistiques migratoires internationales, notamment par l'ONU, mais initialement c'est une publication de 2014 dans le journal Science. Donc on voit ici que l'Asie occidentale, voilà, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, en gros, enfin le Moyen-Orient plus précisément, reçoivent énormément de migrants, en particulier en provenance d'Asie du Sud, mais aussi d'autres régions, bien sûr, et que ce sont des flux importants. Les autres illustrations du type de corridor migratoire que l'on observe aujourd'hui dans la péninsule arabique, c'est que parmi les cinq principaux corridors migratoires, c'est-à-dire échanges de population à l'échelle de la planète en 2019, eh bien, on trouve un corridor, on va dire, intra-régional, de l'Afrique du Nord à l'Asie occidentale, c'est-à-dire encore une fois le Moyen-Orient, hein, c'est-à-dire une circulation à l'intérieur de ce qu'on appelle, nous, le Moyen-Orient-Afrique du Nord. On conserve une autre terminologie, mais aussi les circulations en provenance d'Asie du Sud, Inde, Pakistan, Bangladesh, vers l'Afrique du Nord, Moyen-Orient. Et ici, bien sûr, ces populations vont quasiment exclusivement vers les monarchies du Golfe. Donc il s'agit ici d'une part très importante de ces flux migratoires à l'échelle de la planète. Donc c'est, j'espère que je vous en ai convaincu, une grosse question dont nous allons traiter aujourd'hui, une vieille question, mais qui est largement ignorée dans les études migratoires, qu'il s'agisse qu'elles relèvent de la sociologie, de la science politique, de la démographie, de l'économie, de la géographie ou de l'histoire. En effet, la plupart des études migratoires s'intéressent d'abord à l'immigration dans les pays développés, Europe occidentale, Amérique du Nord principalement, un petit peu aussi en Australie, et elles s'intéressent un petit peu à l'émigration, donc au départ, en provenance des pays en développement. Mais l'immigration vers des pays en développement ou à revenus intermédiaires est quasiment un point aveugle de la recherche. Du côté des études régionales, c'est-à-dire des sciences sociales qui s'intéressent en particulier au Moyen-Orient, le Golfe, paradoxalement, est souvent isolé comme un espace un peu exceptionnel au sein de la région, du fait soit de ses structures sociales, soit de l'économie rentière liée à la prévalence du pétrole dans les économies des monarchies du Golfe, ou de ses institutions politiques, justement, monarchiques. Depuis 2010, la situation dans la recherche a un petit peu changé. Il y a de nouvelles données, à la fois qualitatives et quantitatives, qui permettent de mener de nouvelles études et l'émergence même de ce qu'on appelle les Gulf Studies, donc un champ d'études propre des pays du Golfe, et aussi une révision un petit peu des analyses en termes d'économie politique, notamment sur la rente pétrolière, du fait de la diversification des économies de la région, qui ne sont plus exclusivement dépendantes de l'économie des hydrocarbures pour leur richesse. Néanmoins, l'étude des migrations et notamment l'étude de l'immigration dans le Golfe n'a toujours pas sa place dans les études migratoires au regard de son importance quantitative, ni dans les études régionales et encore moins au sein des disciplines, c'est-à-dire des champs disciplinaires, la sociologie, la science politique, où elle reste considérée comme ce que nos collègues dans le monde anglo-saxon appellent un outlier, donc un effet marginal ou une exception. Et donc c'est du point de vue de la science politique que je vous propose de situer quand même encore plus étroitement, hein, cette question de l'immigration dans les pays du Golfe et des politiques d'immigration dans les pays du Golfe. Donc là encore, c'est un objet qui est tout à fait délaissée hein, par la science politique. Je vous rappelle que les politiques migratoires, on peut les définir comme l'ensemble des politiques publiques, pardon, il manque un S, visant à réguler les flux migratoires, donc par exemple les contrôler, ça peut inclure des politiques de visa, de frontières, ou de contrôler aussi, et ça fait partie des politiques migratoires, les conditions de vie des migrants, leur intégration ou leur exclusion, leurs conditions de vie au sens administratif ou juridique, mais aussi sociale, et les configurations urbaines, par exemple la ségrégation, l'existence de ghettos qui régulent leur vie. On peut penser aussi aux régulations du marché du travail qui, bien entendu, sont extrêmement importantes quand elles créent des droits différenciés pour les migrants et les citoyens. Donc cette définition, je l'emprunte à Thomas Amar. En ce qui concerne le politique et la migration, on peut voir dans cette expression un peu barbare ou jargonnante une extension du domaine de la lutte, c'est-à-dire une compréhension plus vaste du rapport entre politique et migration, et j'y inclurai l'ensemble des dynamiques politiques, qu'elles se placent au sein ou en dehors de l'État, qui déterminent les rapports de pouvoir et les configurations sociales de la mobilité humaine. Donc on dépasse la question de la simple politique publique pour regarder tout ce qui relève de cette dimension agonistique du politique, la question de la lutte et de la conservation du pouvoir, ou des hiérarchies et des rapports de force, mais aussi celle des configurations sociales, qui elles sont peut-être plus fluides et pas seulement définies en termes de rapports de pouvoir. Donc si on s'imprègne de ces deux aspects du rapport entre politique et migration, on voit que la question des politiques migratoires, que ce soit celles qui visent à contrôler les flux ou l'intégration, sont très peu étudiées dans les pays non démocratiques. Voire, on soupçonne qu'elles n'existent pas. Et c'est ce qu'on trouve dans des textes pourtant tout à fait remarquables et classiques, comme le manuel sur le contrôle, enfin les politiques de contrôle migratoire de Brockmann et Amar. En page 12, il nous explique qu'il n'y a pas de politique migratoire dans les pays non occidentaux. Ce qu'on trouve aussi dans la littérature, en sciences politiques, quand on trouve quelque chose, c'est une appréciation un peu distendue du rôle de l'État. Soit l'État, dans les pays non occidentaux, est totalement impuissant, en fait n'existe pas, ne fait pas de politique publique, comme nous le disent Brockmann et Amar, soit son rôle est totalement surévalué. L'État peut tout. C'est un État autoritaire, il a toute puissance sur les flux, sur les personnes, sur les corps, sur les marchés du travail. Et là, on a aussi toute une littérature qui se développe aujourd'hui sur les phénomènes d'autoritarisme transnational. Non seulement les États non occidentaux et autoritaires peuvent tout à l'intérieur de leurs frontières, mais aussi à travers des formes d'intervention sur leur diaspora. On peut penser à la Turquie, mais on peut penser aussi aux Philippines, qui n'est pas exactement qualifié comme un État autoritaire, mais qui contrôle très très vigoureusement sa très nombreuse diaspora. Eh bien, ces États exercent un contrôle transnational sur leur diaspora. Donc, soit l'État ne peut rien, soit l'État peut tout. Dans d'autres cas, le politique est ignoré, au profit de mécanismes économiques ou sociaux, infra ou supra-étatiques, donc les liens sociaux à travers les diasporas. Pour ce qui concerne, par exemple, les flux de réfugiés ou la vie des réfugiés, on va s'attarder beaucoup sur le travail des organisations humanitaires plutôt que sur celle des États ou d'autres phénomènes. Et donc, toutes ces autres dimensions sont privilégiées au détriment du lien politique ou des politiques publiques. J'ai identifié dans une publication récente quelques-uns des effets de ces biais géographiques sur la recherche sur les migrations et le politique. Et j'ai essayé de montrer qu'il y a vraiment deux façons, en fait, en fonction qu'on regarde des pays du Sud ou des pays du Nord, d'apprécier le phénomène migratoire, de l'étudier des angles d'attaque qui sont extrêmement différenciés. Ils sont résumés ici. On y retrouve cette idée que l'État, pour les pays du Nord, par exemple, est considéré comme relativement efficace, mais que son efficacité peut être contrainte, bounded, on dirait en anglais, par l'exercice de droits individuels et collectifs. C'est souvent cet arbitrage qui est décrit entre le rôle des cours en faveur des droits des migrants et le rôle de l'État qui vise à contrôler. Et c'est pas du tout le même type d'analyse ou le même type d'acteur qu'on fait rentrer en jeu quand on regarde la capacité de l'État dans les pays du Sud, qui soit démocratique ou non démocratique d'ailleurs. On peut regarder l'Inde, qui est la plus grande démocratie du monde. On va très très peu regarder le rôle des cours, par exemple, pour comprendre comment est régulée la mobilité en Inde. De manière générale, il y a vraiment ici une importance de ce biais géographique qui ne détermine pas seulement les objets, enfin les aires auxquelles on va s'intéresser, mais aussi les objets et la façon d'analyser les flux migratoires et le politique dans différents contextes. Donc si on veut identifier à partir de ces biais quelques objets de recherche qui restent, à mon sens, encore aujourd'hui à creuser, à explorer, entre le Nord et le Sud, c'est en particulier, et j'en sélectionnerai quelques-uns dans ce tableau, les politiques migratoires elles-mêmes, qui, comme j'ai dit, sont assez peu étudiées dans les contextes non occidentaux. Donc qu'il s'agisse de politiques d'émigration ou de politiques d'immigration. Et ce sont, à l'intérieur de ces politiques migratoires, en particulier les politiques d'immigration et les politiques d'intégration, qui sont très très peu étudiées dans ces contextes de pays en développement ou contextes non occidentaux, même pour les pays à revenus intermédiaires. Et là, on trouve un petit peu la source de mon intérêt pour les pays du Golfe, qui, comme je vous l'ai montré au début de cette présentation, sont de grands pays d'immigration, au moins en termes quantitatifs. Quelles sont les narrations dominantes et qu'est-ce que la recherche nous a dit pendant les dernières les trois décennies qui viennent de s'écouler sur les migrations et le politique dans le Golfe? En ce qui concerne les flux et les politiques de flux, la recherche insiste beaucoup sur le rôle des forces du marché comme déterminants principaux dans les flux. C'est-à-dire que c'est l'existence de la rente pétrolière et les besoins en termes de main-d'œuvre qui sont créés par cette économie pétrolière et ses corollaires, l'économie de services, qui vont générer des flux migratoires. Le rôle des politiques nationales est en général relégué au second plan. Parfois, il y a un intérêt pour le rôle des dynamiques politiques régionales. Il manque un E à régional, je m'en excuse. C'est par exemple le cas dans les années 70, et j'y reviendrai, quand les dynamiques politiques pan-arabes au Moyen-Orient ont généré une circulation facilitée des citoyens des différents pays arabes. On prête en général pas mal d'attention aux questions de recrutement et aux institutions transnationales de l'industrie migratoire en mettant en regard la faiblesse relative de l'État contre la puissance relative du marché, avec un caveat qui n'est pas de faible poids dans le contexte des pays du Golfe, c'est qu'on est dans des contextes où, en effet, les élites politiques sont souvent aussi des élites économiques du fait de la structure patrimoniale du pouvoir qui s'approprie aussi les leviers de l'économie. Le quatrième point très important dans la littérature, c'est que, en général, les travaux scientifiques réaffirment le caractère temporaire de l'immigration de travail dans les pays du Golfe sur le modèle des travailleurs invités en Allemagne, des braceros, des travailleurs temporaires aussi en Amérique du Nord. Et donc, on serait dans une sorte de modèle de gastarbeiter à la golfienne. Les travailleurs viennent sous contrat, mais ne s'installe pas. J'ai parlé un peu plus longuement de cela, et j'y reviendrai dans cette présentation, dans certains travaux, et il me semble qu'ici, déjà, on a à l'oreille une puce qui est stimulante, qui est celle des travaux qui ont été menés justement sur l'Allemagne, par des politistes comme Myron Wiener ou par Stephen Castle ou comme l'économiste Philippe Martin, qui nous ont démontré que oui, l'immigration de travail pouvait être temporaire, mais qu'il y avait aussi un fantasme ou une illusion de la non-permanence et de la non-installation de ces migrants, et j'y reviendrai. Le second flux de narration dominante concerne justement les stocks. Donc on passe des flux aux stocks. En ce qui concerne la population des étrangers dans les monarchies du Golfe, on voit que les points principaux sur lesquels la recherche insiste, ce sont les politiques ou les institutions anti-intégration, c'est-à-dire qui empêchent l'intégration durable des étrangers dans les sociétés du Golfe, les pratiques de ségrégation, d'exclusion, de discrimination, qu'elles soient indexées sur le droit ou qu'elles soient des pratiques sociales ou des institutions formelles ou informelles. Notre collègue Arces Salazar-Parinas parle de contexte d'exclusion, exclusionary context. Un autre point important qui est souvent souligné dans la recherche, c'est celui des phénomènes d'exploitation, sur le marché du travail des travailleurs étrangers, la question des hiérarchies de classe, mais aussi des hiérarchies de genre et de race, dans des marchés du travail qui sont en général justement décrits comme racialisés, où la race ou l'ethnicité ou l'origine vont jouer un rôle déterminant dans l'attribution d'un certain nombre de droits, de prérogatives, de capacités, voire votre niveau de salaire. Et donc, ce qui est souvent souligné, c'est soit la limitation, soit l'absence totale de droits le rôle important des acteurs non étatiques, des intermédiaires sociaux, des employeurs, des agences de recrutement dans cette économie de l'exploitation. En ce qui concerne le contrôle des migrants ou les politiques d'intégration, les politiques de contrôle à l'intérieur des sociétés golfiennes, ce qui est souvent souligné aussi, c'est l'importance d'institutions vernaculaires, c'est-à-dire qui seront perçues comme locales, voire très locales, voire exotiques, un système de garants qu'on appelle la kafala, ou de sponsoring, qui n'est absolument pas exotique. En fait, il y a exactement le même type d'institutions qui existent en Amérique du Nord, en Italie, en Europe, jusqu'à une période très récente. Donc, ce phénomène de l'intermédiation dans la gestion de la population sur place n'est pas du tout une exception golfienne, mais il est résistant, on va dire, dans les monarchies du Golfe jusqu'à aujourd'hui. Le dernier point dans ces narrations, c'est justement le déni de l'installation de ces travailleurs invités et de leurs familles dans les monarchies du Golfe, et l'idée qu'il n'y a pas vraiment de formation de communautés immigrées, ou du moins pendant longtemps, la recherche a refusé de parler de formation de communautés immigrées dans les monarchies du Golfe. Aujourd'hui, la littérature a un peu changé, mais elle le fait souvent sur un mode de « il y a une formation de communautés, mais en fait, ce sont des personnes discriminées, donc de toute façon, à un moment, ils vont devoir partir ». Donc, pour Vous présenter de manière un peu comme ça, avec une perspective thucydidéenne, la longue histoire des migrations et du politique dans les monarchies du Golfe, et revenir donc sur cet état de la littérature sur ces objets, il me semble qu'il faut remonter au début du XXe siècle au moins, et s'intéresser au mode de gouvernance coloniale des migrations entre les années 30 et les années 50, au moment du premier boom pétrolier, c'est-à-dire la découverte et des premières mises en exploitation des champs pétroliers, et durant une seconde séquence qui est la séquence des années 60 aux années 90, qui coïncide avec l'émancipation coloniale des monarchies du Golfe et la nationalisation des industries pétrolières, et ce qu'on a appelé le second boom pétrolier en 73-74. Et vous avez ici une représentation d'officiels de l'Aramco, donc la compagnie pétrolière américano-saoudienne installée dans l'est de l'Arabie saoudite, avec des bédouins en 1948. Donc cette gouvernance coloniale des migrations, elle va se traduire en géographie migratoire différenciée. C'est-à-dire que l'organisation des mobilités à l'intérieur de la péninsule arabique va être très largement déterminée par l'intrication, ou plutôt l'inclusion de la péninsule arabique dans des géographies impériales plus vastes, notamment celle de l'Empire britannique, mais aussi celle de l'Empire ottoman, et une géographie qu'on peut dire pseudo-impériale, qui est celle de la présence américaine en Arabie saoudite. Et disons que j'analyse les différents champs migratoires ou ces différentes géographies de la mobilité selon trois angles. Je m'intéresse en particulier alors ça va vous paraître paradoxal pour une intervention sur les politiques de migration qui sont internationales, mais sur les circulations à l'intérieur des pays de la péninsule arabique et entre les pays de la péninsule arabique. Donc j'ai appelé ce type de circulation des mobilités vernaculaires. enfin en anglais. Et donc l'idée est de regarder comment les citoyens des pays du Golfe, de ces pays sous mandat britannique ou indépendants comme l'Arabie Saoudite, ont circulé pendant cette période entre eux, notamment les zones pétrolifères et les zones non pétrolifères. Et donc participer à la construction d'États golfiens par leur mobilité. Le second type de géographie qui est intéressant à analyser et qu'on peut qualifier, ce sont des mobilités coloniales. Ici, il s'agit de voir comment l'inclusion des pays riverains du Golfe, donc le Koweït, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, ont participé à la mobilité des travailleurs de l'Empire britannique, notamment venus d'Inde, mais aussi du Pakistan, vers ces monarchies du Golfe pour contribuer à l'essor de l'économie pétrolière, et ce, dans une période très ancienne, puisque c'est dès les années 30. Le troisième type de mobilité, c'est ce que j'ai appelé la mobilité impériale, c'est la circulation des travailleurs qualifiés et très qualifiés américains et britanniques, mais aussi italiens, j'en parlerai un tout petit peu, vers ces monarchies du Golfe pour travailler dans l'industrie pétrolière comme ingénieur ou comme manager. Et en fait, on oublie souvent cette dernière catégorie, de même qu'on oublie souvent la première catégorie, c'est-à-dire le fait que les premières migrations qui ont été générées par l'essor de l'économie pétrolière sont des migrations de citoyens des pays du Golfe. Citoyen est peut-être un grand mot, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'identification au sens papier d'identité des citoyens, et d'ailleurs, ça posait un problème pour les reconnaître. Il y avait des grandes confusions entre les citoyens des pays du Golfe et d'autres travailleurs qui parlaient arabe et qui voulaient travailler dans l'économie pétrolière. Mais donc là, ici, il y a vraiment trois types de mobilité à prendre en compte. Je vous donne juste quelques aperçus de la croissance très très rapide au sein d'une entreprise, en l'occurrence ici l'Aramco, qui s'appelait Socal avant. Donc, sur une petite période, on voit que les effectifs de l'entreprise croissent, donc pour l'époque, c'est une croissance très très impressionnante, et que ce sont les travailleurs dits indigènes, donc les travailleurs d'Arabie Saoudite et des pays du Golfe, hein, qui sont considérés plus ou moins tous comme indigènes, qui vont d'abord staffer cette économie pétrolière, et ensuite les employés américains, puis indiens. Quand on regarde à l'échelle de la région, donc ici vous avez les quatre grandes entreprises pétrolières du Bahreïn, du Koweït, du Qatar et de l'Arabie Saoudite, vous voyez qu'il y a effectivement aussi, c'est intéressant pour notre troisième type de mobilité, les mobilités impériales, une distribution entre travailleurs britanniques, travailleurs américains. On le voit notamment au Bahreïn, donc la première colonne de l'entreprise Babco, qui est une entreprise au départ américano-bahreïni avec des fonds anglais. Et en fait, Bahreïn étant sous mandat britannique, l'agent de la couronne à Bahreïn très vite demande la substitution des travailleurs américains qui sont considérés plus ou moins comme une cinquième colonne par des travailleurs britanniques, donc impose une sorte de préférence nationale impériale dans l'emploi qualifié. Donc ces jeux-là en fait sont très intéressants à observer, à analyser dans les archives, et on voit qu'en fait c'est pas seulement la question du marché du travail qui est concernée, c'est aussi tout un modèle de développement urbain et sociétal qui est forgé pendant cette période coloniale, où en fait les compagnies pétrolières dans les oil towns, c'est-à-dire dans les villes pétrolières, vont organiser l'espace, créer des quartiers pour les Américains, des quartiers pour les Britanniques, des quartiers pour les Indiens, des quartiers pour les locaux, qui sont paradoxalement à cette époque les quartiers les plus misérables, de véritables bidonvilles. Donc en fait les locaux ne sont pas du tout dans une position de supériorité à cette époque-là, au contraire, c'est la main-d'œuvre la moins favorisée et leurs conditions de travail sont dramatiques. On voit aussi des cas un peu particuliers, par exemple les Italiens qui sont venus travailler pour l'Aramco dans les années 40 et qui venaient non pas d'Italie mais de la colonie Érythrée, qui était ancienne colonie italienne sous mandat britannique après la Seconde Guerre mondiale, pendant une brève période. Et ce qui est intéressant, c'est que les travailleurs italiens viennent en tant que travailleurs qualifiés, ingénieurs ou techniciens supérieurs, mais vont être assimilés aux travailleurs indiens ou aux travailleurs arabes et donc vivre dans des conditions absolument déplorables. Et ils vont faire plusieurs grèves dans les années 40 et au début des années 50, ce qui va bien sûr amener l'Aramco à arrêter totalement de faire venir des travailleurs italiens pour éviter des grèves et à renvoyer l'intégralité de ces travailleurs dans leur pays. Donc il y a ici à la fois une histoire de mouvements sociaux qui est totalement occultée par la recherche mais qui est extrêmement puissante. Il y a aussi eu des grèves de travailleurs indiens sous contrat avec la couronne avant les indépendances, qui ont amené aussi à des formes de répression extrêmement brutales. Cette matrice, en fait, des inégalités à la fois par le travail, mais aussi dans les modes de vie et dans l'organisation des villes, avec un urbanisme très spécifique, qui est un urbanisme qui est dessiné par les ingénieurs de l'Aramco ou de la Babco, c'est-à-dire qui dessinent eux-mêmes les villes autour des champs pétroliers, et cet urbanisme, bien sûr, est résilient. Aujourd'hui, on en voit encore les traces. Et vraiment, la matrice de la gestion des migrations dans cette région. Et ce serait une erreur de penser que la gestion spécifique des migrations dans les monarchies du Golfe est une sorte d'exotisme arabe ou péninsulaire. Au contraire, elle a un très fort ancrage dans d'autres modèles de séparation et d'inégalité. En l'occurrence, pour le cas de l'Arabie Saoudite, c'est le système Jim Crow américain qui a été absolument stricto sensu importé en Arabie Saoudite pour organiser la ségrégation des races à l'intérieur des villes saoudiennes. Un élément qui est souvent oublié aussi dans cette gestion de cette gouvernance coloniale des migrations, c'est la question du pèlerinage. Et je vous donne ici une idée un peu quantitative empruntée à notre collègue historien Luc Chantre l'explosion en fait des chiffres du pèlerinage vers la Mecque et Médine en Arabie Saoudite, donc sur la côte de la mer Rouge. Et cette gestion du pèlerinage, elle est absolument centrale pour les institutions coloniales, puisqu'elle permet par exemple, à l'Empire britannique, qui est la plus grande puissance musulmane de toute l'histoire de l'humanité, il faut s'en rappeler, ou à l'Empire ottoman, de gérer un volant très important de mobilité, qui sont bien sûr des mobilités à caractère religieux, mais qui sont aussi, bien sûr, aussi greffées à des mobilités professionnelles et familiales, et à des échanges culturels. Et on l'a vu particulièrement en fait en 1865, au moment où éclate une épidémie de choléra, où on a le premier exemple d'une coordination entre les grandes puissances impériales pour la gestion sanitaire de ces mobilités, avec mise en quarantaine, création de passeports pour le pèlerinage, identification toute la mise en place d'un traitement sanitaire et la création de ce que Sylvia Cifolo appelle le stigma du pèlerin. Et effectivement, le pèlerin devient une catégorie dangereuse en fait à ce moment-là parce qu'il fait circuler des maladies. Et évidemment, cette remarque peut résonner en temps de Covid. La seconde séquence, qui est une séquence mieux connue, donc je passerai un petit peu plus vite, c'est celle des régimes migratoires post-coloniaux. Donc au moment des indépendances, début des années 70, les pays du Golfe deviennent indépendants par rapport à la couronne britannique, et l'Arabie Saoudite devient plus indépendant, on va dire, par rapport au pouvoir américain. Et la marque de cette indépendance, c'est bien sûr la nationalisation de ces entreprises pétrolières qui étaient auparavant possédées par des compagnies pétrolières américaine ou anglaise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, au moment de ces indépendances, consolider un lien très très fort entre le pétrole, l'analyse de la façon dont la rente pétrolière est accumulée et redistribuée par les monarchies du Golfe, et la question des migrations. Et je propose dans un papier récemment fini, de penser en fait la notion de rente pétrolière en parallèle de celle de rente migratoire. Et en effet, on voit que les relations de dépendance aux revenus pétroliers sont similaires à la dépendance ou corollaire ou corrélé à la dépendance en matière de main-d'œuvre étrangère. Et on le voit particulièrement quand on transcrit, en fait, dans un graphe la fluctuation des prix du pétrole, qui est la ligne pointillée, avec le taux de migration nette sur l'ensemble de la région, donc pour 1000, hein, le taux de migration net c'est pour 1000, c'est pas un pourcentage. Et on voit bien que avant les années. Ah, c'est dramatique, on ne voit pas les dates. Bon, alors c'est dommage, on ne voit pas les dates, mais le premier pic pétrolier que vous voyez apparaître, c'est autour des années 70, et le second, c'est autour des années 2010. Donc en fait, on a deux grands pics pétroliers qui sont en fait le deuxième et le troisième hein, pic pétrolier. Et vous voyez effectivement que le pic des prix du pétrole, la montée des prix du pétrole, est corrélée à une augmentation l'immigration nette. C'est encore plus clair pour le troisième boom pétrolier, c'est-à-dire celui des années 2010. Donc cette corrélation-là, elle est vraiment intéressante. Elle détermine très fortement au sein des monarchies du Golfe le lien patrimonial entre l'État et la population, puisque l'État ou le souverain redistribue la rente pétrolière à travers des politiques d'État-providence aussi en l'absence d'impôts, mais auxquelles se greffent aussi des corps intermédiaires, des tribus, les familles marchandes. Et cette dimension centrale de la rente pétrolière, elle est aussi, on la retrouve aussi dans la rente migratoire, à cette exception près que la rente migratoire n'est pas distribuée par l'État. La rente migratoire, c'est un lien spécifique entre, enfin c'est en tout cas comme ça que je la définis, entre le migrant et le citoyen, par lequel le citoyen extrait une rente de la présence des étrangers, c'est effectivement via le système de la kafala, du sponsoring, où pour venir dans un pays du Golfe, vous avez besoin d'avoir un sponsor ou un garant que vous allez payer, donc c'est un lien marchand, et qui va vous permettre d'avoir un droit de résidence, d'un droit de travail, etc. Donc ici, on a vraiment un mécanisme de rente, donc que j'appelle la rente migratoire, mais qui n'est pas médié par l'État. Et c'est là où il y a une grande différence. Cette rente, elle permet aussi aux citoyens de contrôler la mobilité professionnelle. Pour changer d'entreprise ou pour changer de travail, l'étranger doit demander l'autorisation de son kafil, de son sponsor, et qui assure aussi une tutelle juridique et morale en droit musulman sur les étrangers. Mais c'est important de souligner que cette rente migratoire n'est pas accaparée par la famille régnante, elle n'est pas canalisée par l'État, et ça, c'est un point crucial. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, les États du Golfe, l'ensemble des monarchies du Golfe, cherchent à réformer le système de la kafala, bien sûr parce que c'est un vecteur d'exploitation hein, des migrants, ça c'est le discours des organisations des droits des migrants, mais du point de vue des États du Golfe, et pour avoir fait de nombreux entretiens dans le Golfe, ça n'est pas la question des droits qui prime, c'est la question du contrôle. Et donc c'est assez important. C'est une façon pour l'État de se décharger de sa fonction de contrôle auprès des citoyens, mais aussi de perdre une partie de son pouvoir sur la régulation. Donc effectivement, on voit que rente migratoire et rente pétrolière sont liées. La composition de la population immigrée durant cette période, dans les années 70-80, est très fortement marquée par la présence des travailleurs arabes, donc la circulation au sein de l'espace pan-arabe avec une dimension diplomatique forte, hein, de collaboration entre les États arabes, y compris les États du Golfe, qui va permettre une ouverture des frontières, mais qui restera toujours informelle. Il n'y aura jamais, par exemple, d'accord de libre circulation au sein de la région. On le voit ici, l'Égypte est une des nationalités majoritaires dans la région, et elle est progressivement supplantée par l'Inde, et on le voit, les travailleurs asiatiques deviennent progressivement de plus en plus nombreux. Si on arrive à la période plus contemporaine pour analyser un peu ce que nous a dit cette trajectoire historique du lien entre politique et migration, on voit que la période la plus contemporaine, depuis le début des années 90, est une période de quête ou de quête du contrôle et une période pendant laquelle la question du contrôle de l'immigration et des migrants dans les monarchies du Golfe, comme en Europe occidentale, se pose très fortement. On voit que la part de l'immigration, le nombre d'immigrants augmente largement. On arrive à des très forts, des très forts taux une très forte part de la population immigrée dans ces monarchies du Golfe. Et on voit que cette quête du contrôle se cristallise dans des périodes de crise. En 1991, au moment de la guerre du Golfe, où il y a une très forte tension qui se révèle par des expulsions massives de travailleurs yéménites en Arabie Saoudite ou de travailleurs palestiniens au Koweït. Et cette tension, elle est vraiment générée par la prise de conscience dans les monarchies du Golfe de leur dépendance à cette main-d'œuvre étrangère et de la nécessité de contrôler cette dépendance. On a le même choc en termes de politique migratoire avec à nouveau des expulsions et des politiques de contrôle, un renforcement des politiques de contrôle en 2011 au moment des printemps arabes. Donc on voit bien que les crises politiques, ces moments de crise politique, la guerre du Golfe et les printemps arabes vont être des moments où les politiques migratoires vont se resserrer, où l'État va tenter de prendre le contrôle sur tout un tas de mécanismes, qu'il s'agit des flux, c'est-à-dire des entrées de travailleurs, de contrôler l'origine des travailleurs, de contrôler les volumes, mais aussi le contrôle à l'intérieur des pays des migrants et notamment des migrants clandestins. Cette période est aussi une période, les années 90, 2000 et 2010, durant laquelle les monarchies du Golfe vont avoir vont lancer des grandes offensives diplomatiques internationales pour obtenir plus de reconnaissance, notamment de la part des États occidentaux. Donc il y a un renversement de la diplomatie des monarchies du Golfe qui était initialement plutôt dirigée vers le reste du monde arabe et qui va se tourner plutôt vers les grandes puissances et l'Occident. Et on parle souvent d'émergence du soft power, de la puissance douce de ces monarchies du Golfe, qui va se traduire par, et là je prends plutôt cette diapositive-là, par l'organisation de grands événements sportifs, culturels, la participation à des grands événements commerciaux aussi, technologiques, mais qui va aussi se traduire, et c'est important, par une démarche de normalisation de leurs droits du travail, et d'une certaine façon aboutir à ce que j'ai appelé le « migrants' rights washing », c'est-à-dire une apparente régulation du marché du travail avec une amélioration du droit du travail en faveur des migrants. Alors ça vient aussi d'une poussée des organisations non gouvernementales qui dans les années 2000 commencent à lancer des campagnes d'activisme en faveur du droit des migrants dans le Golfe alors qu'elles étaient quasiment inexistante dans la période précédente. Et en fait, évidemment, les deux sont corollaires. Plus les monarchies du Golfe essayent d'avoir un profil et une stature internationale et organisent des grands événements, plus la visibilité des conditions de travail des migrants dans le Golfe devient forte et donc les organisations internationales s'y intéressent et plus ces organisations non gouvernementales en faveur des droits ont du levier pour pousser pour ces réformes. Et de fait, on a des réformes qui sont adoptées, mais qui, en réalité, n'améliorent que très marginalement la situation. Ce qu'on voit en revanche changer, c'est l'interdépendance entre les monarchies du Golfe et d'autres régions. C'est vraiment l'Asie du Sud qui devient le pôle, on va dire, diplomatique avec qui le Golfe va discuter en matière d'immigration. La place des migrants indiens, ici vous le voyez sur ce graphe, augmente très très substantiellement au début des années 2000 pour représenter en fait plus de 30% en fait de la population immigrée dans le Golfe. Et si vous regardez l'Asie du Sud dans sa totalité, Inde, Bangladesh, Pakistan, on a plus de 50% des immigrés dans le Golfe qui sont originaires de l'Asie du Sud. Et cette relation diplomatique, elle va se traduire par... Ah, d'accord. Ok, parce que j'avais... D'accord. Elle va se traduire par à la fois des partenariats, mais aussi des tensions. Les pays d'Asie du Sud vont mettre les monarchies du Golfe sous pression en, par exemple, promettant d'interdire l'émigration vers les monarchies du Golfe lorsqu'il y a, bien sûr, des abus concernant les droits de l'homme de leurs ressortissants, mais aussi dans le cadre de négociations sur le salaire minimum de leurs ressortissants, ayant bien sûr un intérêt à ce que les remises migratoires continuent d'affluer et en volume très important. Les politiques du pèlerinage, elles aussi, s'articulent à ce plus grand contrôle, un contrôle sur les flux avec l'établissement d'une politique de quotas par nationalité. Et on voit que aussi les volumes de cette mobilité, dont on a souvent une très faible vision, sont absolument énormes, puisque non seulement il y a le Hajj, donc le grand pèlerinage qui attire plusieurs millions, 3 millions environ de personnes à la fois par an, avec en plus des pèlerins intérieurs en Arabie Saoudite, mais aussi il y a le petit pèlerinage qui lui se déroule toute l'année, et en tout on a presque 20 millions de personnes qui circulent, ne serait-ce qu'en Arabie Saoudite, durant l'année. Donc si on veut rassembler un petit peu ce propos pour comprendre de quoi est faite cette gouvernance illibérale des migrations dans les monarchies du Golfe et le lien entre État, marché et société, on voit qu'il y a effectivement un déni d'immigration, c'est-à-dire un déni d'installation des travailleurs et de plus en plus de gestion de flux et de la temporarité de ces populations avec l'instauration de nouvelles politiques qui limitent la durée de séjour, qui n'existaient pas du tout avant les années 2010, donc c'est vraiment une nouveauté. La naissance vraiment de ce que on peut, en empruntant à Foucault, appeler une politique de la population, c'est-à-dire une véritable anxiété des monarchies du Golfe vis-à-vis de cette population immigrée, pas seulement à cause de la dépendance sur le marché du travail, mais aussi du fait de l'installation d'une partie de cette population dans cette région qui n'est souvent pas notée par la recherche. Et les réformes auxquelles les États vont donner de l'espace dans ces années 2000-2010 sont des réformes qui, bien sûr, semblent consolider le droit ou du moins les modalités de régulation. Donc l'État prend vraiment la stature de ce qu'on a appelé en Asie, à Taïwan ou en Corée du Sud, un État développeur avec la mise en place d'un capitalisme sous contrôle, mais pas le capitalisme sous contrôle de la version patrimoniale Weber, un capitalisme sous contrôle avec les instruments de l'État moderne et des bureaucraties plus efficaces, la digitalisation des rapports entre l'État et le marché et les citoyens. Donc vraiment l'établissement d'une matrice de contrôle qui va inclure les migrants, mais aussi les populations locales, pour tenter de remettre l'économie sous contrôle. Donc pas du tout de néolibéralisation dans le Golfe, même si le discours prend cette apparence, au moins en surface. Et ces régulations sont des régulations qui sont imposées par l'État, sont des régulations qui sont éminemment inégalitaires, qui vont introduire dans le droit une gestion différenciée des populations étrangères et nationales, qui vont la codifiés à la fois dans les salaires, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Il y avait des modes de régulation inégalitaires entre les étrangers et les nationaux, mais qui passaient par d'autres institutions, par exemple la CAFALA. Là, on a une réappropriation, une réétatisation de ces inégalités et cet établissement paradoxal d'un état de droit, mais de droit inégalitaire, et qui deviennent de plus en plus codifiés dans la loi. Donc, pour conclure, je ne dirais que deux mots. Il me semble que ce panorama un peu, bien sûr, large et forcément superficiel dans une certaine mesure, nous donne à saisir deux choses qui me semblent importantes. La première, c'est que les transformations du rapport entre le politique et la migration dans les monarchies du Golfe ne sont pas sans intérêt pour comprendre à l'échelle plus globale, en dehors de cette région, la transformation des fonctions de l'État. Et on l'a vu dans le cas de l'Europe occidentale, en Amérique du Nord, mais aussi en Asie, ce retour de l'État, cet intérêt pour le contrôle migratoire qui émerge dans les années 90, il émerge de la même façon dans les monarchies du Golfe. Donc ici, il n'y a pas d'idiosyncrasie golfienne, et la tendance qu'on observe dans d'autres régions s'observe aussi dans les monarchies du Golfe, avec des modalités spécifiques. La question que je poserais, c'est est-ce que cette gouvernance illibérale des mobilités, qui a des racines spécifiques et contextuelles dans cette région, n'est pas aussi sans faire écho à des formes d'illibéralisation de la gouvernance des mobilités, d'accroissement des inégalités de statut, par exemple, entre les migrants dans des démocraties occidentales avec des régimes de visa différenciés. Et donc, c'est sur cette question que je terminerai cet exposé.